Voilà, donc bonsoir, merci d'être venu à cette première conférence d'un cycle de trois qui aura comme le point commun, c'est la photographie et l'art, hein, les rapports entre les deux à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors ce soir, je vais vous parler d'un bourguignon célèbre, Marais, et d'un anglais, Muybridge, qui les deux ont tenté de représenter le mouvement à la fin du 19e et avec l'outil photographique. Mi-novembre, le 14, il y aura une seconde conférence sur l'impressionnisme et la photographie. Et puis une troisième en décembre, début décembre. Trois, oui, voilà. Ça sera les artistes et la pratique photographique à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Voilà, donc... Ces trois conférences vont couvrir un petit peu l'histoire de la photo qui commence à intéresser de plus en plus de chercheurs. Et vous avez peut-être constaté que de nombreuses expositions ont pour thème les rapports justement entre la photographie et l'art en général.
C'est bon ?
Non ?
Ça va ?
D'accord. Okay. Je démarre. Donc le 19e siècle, sans la passion du mouvement, n'aurait pas été. En phase avec l'essor prodigieux de l'industrialisation, le mouvement est au centre des recherches, photo instantanée, physiologie, aéronautique, chemin de fer et cinéma. Et cet esprit novateur contribue à produire une nouvelle vision et à donner une nouvelle dimension au monde moderne. La notion de mouvement, alors voyons quand même les deux personnages clés de cette conférence, Étienne Jules Marais et Edward James Muybridge, dont nous reparlerons en détail dans peu de temps. La notion de mouvement met en relation l'espace et le temps. Or, la conception du temps est alors bien éloignée de la nôtre. Je vous ai monté cette carte avec quelques distances et temps pour les parcourir. 1555, Paris-Lyon se fait en 18 jours en char à bœuf. Paris-Toulouse, en 1650, il faut quand même 30 jours en coche. Par contre, en 1851, 31 heures de train suffisent. Et Paris-Berlin, en 1851, toujours, est relié en 8 jours par le train. L'image projetée n'a pas cessé de hanter les esprits et les inventeurs en tout genre. Pour faire simple, débutons en 1646, le père jésuite Kircher met au point la lanterne magique, en fait un appareil de projection avec en A une boîte à lumière, en B un objectif et en C des plaques peintes à la main qui sont déplacées par une glissière. En 1823, le docteur anglais Paris met en évidence le phénomène de la persistance rétinienne à l'aide du tomatrope et notre vision captant 16 excitations par seconde, nous avons l'impression d'une continuité. Bon, le tomatrope, en fait, était devenu un jeu d'enfant. On a donc sur un disque de carton deux images. On fait tourner à l'aide d'un élastique et avec la vitesse de rotation, notre œil enregistre l'oiseau dans sa cage alors que les deux dessins sont dissociés. Donc, c'est des principes élémentaires, mais disons que, ben, au début du 19e, il fallait quand même le faire. Alors, vont suivre toute une série de machines optiques. Ça va aller du jouet optique à différents dispositifs. Le point commun, c'est que, en fait, ce sont des disques animés en rotation avec des dessins, des successions de dessins, et avec le mouvement, les dessins vont donner l'illusion d'être animés. Alors, on a le phénakistiscope, c'est des noms vraiment à dormir debout, hein, de plateau, le praxinoscope d'Émile Reynaud, qui sera repris par Muybridge, on en reparlera. En 1890, Edison met au point un appareil qui s'appelle le kinétographe. En 1893, alors je vais un petit peu vite, le zoopraxiscope de Muybridge, on en reparlera tout à l'heure, c'est en fait un projecteur d'image, on peut même parler du premier projecteur de cinéma. Lui aussi fonctionne avec des disques, je vous en reparlerai tout à l'heure. En bas, vous avez une petite animation avec ce disque mis en mouvement et on a donc l'illusion là aussi du mouvement. Ce sont des appareils qui étaient dans l'air du temps. En fait, Muybridge n'avait pas inventé grand-chose. Il n'a fait qu'adapter plusieurs appareils de façon à obtenir un effet particulier. Marais, lui, a mis au point un chronophotographe qui était le précurseur de la caméra de cinéma. On en reparlera là aussi. Et le point commun avec ces appareils, c'est que tous fonctionnent avec des disques. Alors la représentation du mouvement va buter contre un obstacle longtemps infranchissable. Aucun appareil n'est capable de saisir le mouvement. Les temps de pose sont beaucoup trop longs. Et à ses débuts, la photo ne permet que des prises de vue d'objets inanimés, donc des natures mortes. Je vous ai choisi en haut à gauche un daguerréotype. Alors daguerréotype, je vous en reparlerai très en détail lors de la deuxième conférence. C'est le premier procédé photographique de l'histoire de la photographie. Et ici, Daguerre donc, a photographié une collection de fossiles. Pas de problème, ça ne bouge pas. En dessous, un anonyme a photographié avec un œil étonnamment moderne des rochers, 1845 hein, quand même. Et puis, à droite, Hippolyte Bayard, photographe brillant qui s'est portraituré ici en noyer. Alors, deux solutions. Se représenter en noyer inerte, ben on fait une nature morte en quelque sorte. Très souvent, même la plupart du temps, ceux qui étaient photographiés avaient les yeux fermés parce que l'œil bouge, donc ça fait un flou. Et puis peut-être que même c'était une métaphore parce qu'il avait mis au point un procédé photographique négatif papier qui a vite sombré dans l'oubli. Donc il était son invention. Était condamné à disparaître. Les temps de pose sont très longs. Alors mettez-vous à la place des modèles qui posaient, c'était à la limite du supplice. Donc on avait inventé toute une série d'appareillages qui tenaient de l'instrument de torture, on dirait, mais bon, ça soulageait les malheureux sujets. Donc ici, un dispositif qui permet au sujet d'appuyer la tête, d'avoir le buste coincé, c'était réglable à la hauteur de la personne. Voilà, donc en photographie, il y a trois problèmes. Il y a trois facteurs qui vont déterminer le temps de pose. Et tant qu'il n'y avait pas d'appareil, des posemètres pour mesurer ces facteurs, ça se faisait vraiment au petit bonheur. Les temps de pause étaient extrêmement longs, donc les sujets étaient obligés de tenir tant bien que mal la pause. Ça veut dire que les ateliers de photographes souvent se trouvaient au dernier étage des immeubles. Ils étaient dotés de très grandes verrières de façon à ce que la lumière du soleil tombe directement. Alors je ne vous dis pas la chaleur que ça dégageait. Il n'y avait pas de climatisation. Et voilà un dispositif d'après une gravure de l'époque où on a le personnage photographié. On lui a quand même placé un écran pour éviter la lumière directe. Mais il y avait toute une installation absolument nécessaire. Donc les inventeurs vont rivaliser d'audace pour essayer de trouver un problème face à cette luminosité. Alors il y a la sensibilité du support qui intervient. À l'époque, c'est la plaque de verre ou le papier. La sensibilité est très faible et elle sera le handicap majeur jusqu'en 1881. 1881, c'est l'année où sont commercialisées des émulsions au gélatino-bromure qui resteront valables jusqu'à nos jours. Ceux qui ont pratiqué le noir et blanc avec l'argentique connaissent ces émulsions. Elles sont restées pratiquement invariables jusqu'à nos jours. Il y a eu simplement des affinements techniques, le grain qui a été beaucoup plus fin, etc. La recherche avait fait quand même bien évoluer la sensibilité, mais le principe reste le même. L'intensité de la lumière, je vous en ai parlé avec ces dispositifs de studio photographique. Quand on ne pouvait pas utiliser le studio, les photos se faisaient en plein air au soleil. C'était la garantie du succès. Et on va voir que Marais et Muybridge, les deux, chacun de leur côté, ont fait des installations techniques très poussées, mais qui étaient en plein air. Comme ça, ça résolvait le problème. Troisième problème technique, la luminosité des objectifs. Les objectifs, les Allemands étaient toujours très très forts, ils avaient des siècles d'avance sur les autres pays européens. Eh bien, Zeiss va mettre au point une formule optique, l'anastigmate, qui va permettre des ouvertures 10 à 18 fois plus lumineuses que les objectifs traditionnels. Grosso modo, il y a un axe, et par rapport à l'axe optique, on a le même nombre de lentilles à l'avant et à l'arrière. Pour cerner un petit peu cette notion de temps de mouvement, je vais vous donner quelques petits repères. On va remonter à Niepce, le père. On a dit longtemps que c'était la première photographie de l'histoire de la photo. En fait, c'est la seconde, on en a trouvé une un petit peu plus ancienne. 1827, photographie prise dans sa propriété à Varennes-le-Grand. En fait, c'est une photographie sur plaque d'étain qui est très très difficile à lire. Il y a eu un tirage sur papier contemporain où on distingue un petit peu mieux les éléments, bien que le flou règne en maître. Et comme je vous ai marqué, le temps de pause est estimé à 70 heures. Pour prendre cette photo, Niepce avait installé une chambre sur pied dans l'embrasure d'une fenêtre et ça a été très très bien restitué. Là, j'ai visité la maison il y a quelques mois et c'est vraiment très très intéressant. Si vous avez l'occasion, ça vaut la visite. Et ils ont donc reconstitué les conditions de prise de vue de ce deuxième cliché de l'histoire mondiale de la photographie. Donc 70 heures en 1827, 1835, 3 minutes en plein soleil par contre. Ça c'est les temps de Daguerre, 30 minutes en éclairage normal. Vous voyez, on passe de 3 minutes à 30 minutes, c'est considérable. 1841, 15 à 25 secondes. Donc vous voyez, là on a gagné de précieuses... C'est le calotype de Talbot. Calotype, c'est un négatif papier. Je vous en reparlerai lors de la deuxième conférence. 1878, 1/25e de seconde est atteint chez Muybridge. Donc, la saisie du mouvement devient possible. 1878. Alors, les recherches de nos deux compères, Marais et Muybridge, vont marquer une révolution dans l'histoire de la représentation visuelle. Pour mieux cerner le problème, nous allons regarder de plus près ce que les deux ont mis au point. Donc, voici Muybridge, statue en bronze, et puis Marais, photographié par Nader. Donc, ces deux personnages, ce sont deux personnalités fort contrastées. Ah, je vais un petit peu vite, pardon. Je voudrais revenir en arrière. Oui, c'est bon. Voilà. Muybridge, c'est un aventurier photographe de renom, l'autre un savant reconnu, le physiologiste Marais, qui élabora la méthode graphique, je vais vous en parler de ce qu'est la méthode graphique. Les deux sont nés et décédés aux mêmes dates, 1830-1904. Ils ont les deux les mêmes initiales, EJM. Il y a des curiosités comme ça. Alors, on va commencer par Muybridge. Muybridge, c'est un Anglais qui émigre aux États-Unis à 21 ans. Il reviendra plus d'une fois en Angleterre, où il s'initie à la photographie. Aux États-Unis, il va exercer plusieurs métiers, libraire, puis photographe, et sous le nom d'Hélios, Hélios le soleil, en grec, il va arpenter toute la côte ouest des États-Unis et faire des clichés qui vont avoir un très grand succès auprès du public. Et c'est un excellent technicien. De 1866 à 1872, il va faire des reportages sur la côte ouest des États-Unis, du Canada, de l'Alaska. En fait, c'est la pleine époque de la ruée vers l'ouest et ses photographies tombent à point. Il va permettre à ses clients de visualiser un petit peu cet ouest dont tout le monde parle, et ses photographies vont devenir très vite un peu mythiques. Il a fait un reportage sur le Yosemite. Ses photos sont distribuées dans le monde entier. Et Muybridge travaille, je vous disais que c'est un excellent technicien, il va travailler avec des plaques en verre de très grand format qui ont 60 cm de long. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, alors que le format habituel des plaques, c'est 13-18 cm. Lui, grand format, il faut dire qu'à l'époque, l'agrandisseur n'existait pas. Donc, pour obtenir un cliché, une photo papier à partir d'une plaque de verre, il fallait faire un tirage par contact. Donc on met le papier sensible sous la plaque de verre, on insole un certain temps et on obtient donc le positif. Et comme le format était très grand, inutile de dire que le résultat, les photos étaient extraordinaires de qualité. Il a même procédé à des retouches en laboratoire pour avoir un ciel équilibré par rapport au sol. Souvent, en photo de paysage, c'est ce qui se passe. On a un sol qui est sous-exposé, sombre, et un ciel trop lumineux qui n'a plus de nuages, plus de consistance. Donc lui a résolu le problème. On en reparlera lors de la deuxième conférence. En 1872, il réalise ses premières recherches sur la démarche du cheval, mais ses premiers clichés sont très très décevants en raison de la lenteur des émulsions. Pendant 10 ans, il va travailler pour l'ex-gouverneur de Californie, Stanford, le fondateur de l'université du même nom, qui était propriétaire de Hara. Puis, pendant 4 ans, il disparaît en Amérique centrale après le meurtre de l'amant de sa femme. Ben là, c'était les méthodes expéditives de l'Ouest. Voilà, donc une personnalité très forte. Maintenant, Marais. Marais, il ne cède en rien à la personnalité de Muybridge, on va le voir. Il est né à Beaune. Son père est commissionnaire en vin chez Bouchard. Je vous ai photographié la rue Gandelot à Beaune où se trouvait la maison paternelle. Mais comme il n'y a pas de plaque et puis que je ne m'étais pas très très renseigné, j'avais rien trouvé. Voilà, ça doit être une de ces façades, mais laquelle, je ne sais pas. Donc Marais va faire des études médicales qui vont le mener à l'hôpital Cochin comme interne. C'est un très brillant étudiant. Et sa thèse sur la physiologie médicale de la circulation du sang lui confère la notoriété. Marais va mettre au point toute une série d'appareils qui, en fait, sont des appareils extrêmement importants parce qu'en fait, il est le père de tous les appareils de mesure, que ce soit la tension, rythme cardiaque, influx nerveux, etc. C'est Marais qui est à l'origine de ces appareils. Un cardiographe en haut, ensuite un appareil, le sphygmographe pour mesurer le pouls, un appareil pour mesurer l'influx nerveux. Vous voyez donc 1859, 1878, 1866, ce sont des appareils qui nous semblent bizarroïdes, assez archaïques, mais à l'époque c'était une révolution technique. En fait, c'est là véritablement la méthode graphique qu'avait mise au point Marais. Cette méthode graphique, pourquoi graphique? Parce qu'en fait, ces appareils avaient, un peu comme les sismographes, hein, un bras articulé qui réagissait à des impulsions, et au bout du bras, il y avait une aiguille fine, et cette aiguille, en se déplaçant sur un cylindre, qui souvent était enduit de noir de fumée, hein, un papier enroulé, etc., eh bien, il y avait transcription de l'impulsion en dessin, en graphique. C'était extrêmement nouveau à l'époque. Et le musée des Beaux-Arts de Beaune possède dans ses réserves tout l'équipement scientifique de Marais, qui n'a plus de musée. J'ai vu la conservatrice, Madame Lebas, qui m'a permis de faire les photographies, là, que vous voyez. Et elle m'a dit qu'elle attendait depuis des années la création d'un musée Marais, mais faute de crédit, tous les appareils sont sur des étagères sous plastique. Alors c'est quand même assez extraordinaire. On dit bien que la France n'est pas toujours très conséquente vis-à-vis de ses inventeurs, mais là, quand j'ai aidé la conservatrice à sortir les appareils fusils photographiques que vous verrez tout à l'heure, ça fait quand même un drôle d'effet. Donc Marais, qui était un scientifique très pointilleux, collait dans des registres d'expérience, de laboratoire, toutes les fiches après les expériences. En 1868, Marais élargit son champ d'exploration. Il va essayer de capter le mouvement de la machine humaine et animale. Il va commencer avec le vol des insectes, des oiseaux. Alors vous voyez ces appareils, toujours le même principe, hein, comme capteurs en fait, ce sont toujours ces bras très sensibles qui vont réagir à la moindre impulsion. Et pour étudier le vol des oiseaux, ben, il faut dire que le procédé, là, c'était quand même pas l'idéal. On imagine l'animal, là. Donc, Marais va se poser des questions, mais pas très longtemps. Il va se rendre compte que sa méthode graphique a des limites. En 1873, il étudie l'homme et le cheval, et un de ses élèves met au point la chaussure exploratrice, dont la semelle en caoutchouc, avec une petite chambre à air, est relié à l'appareil enregistreur. Vous voyez, là aussi, il n'est pas mieux loti que la buse. Hein. Lui-même invente un sabot explorateur, cette fois-ci adapté au cheval. Alors, tout un fourbi d'appareils, c'est extraordinaire. Il avait vraiment une vision et puis surtout un sens extrêmement grand de la mécanique, etc. Il avait bien des assistants, mais dans la conception, il a été extrêmement fécond. Donc, un autre appareil pour mesurer les rythmes du cheval. Et c'est lui qui va mettre en évidence que le cheval, pendant un très bref instant, reste suspendu au-dessus du sol, puis le pied postérieur gauche va toucher terre. Ça, c'est grâce à sa méthode graphique qu'il a pu établir cette vérité qui était absolument contredite par tout ce que les artistes produisaient. Ça dépassait notre vision, donc impossible de le constater sans un appareillage particulier. Donc cette nouveauté sensationnelle va provoquer une incrédulité absolue. Personne ne voulait croire que Marais allait révolutionner la vision à ce point-là. Et puis donc, avec ces appareillages, Marais va se rendre compte très vite que la méthode graphique avait des limites et qu'il va rencontrer Muybridge, qui va l'ouvrir à la photographie, et la photo va le libérer de toutes ses contraintes. Voilà. Même s'il est couvert de titres et de fonctions honorifiques, Marais reste un anticonformiste. Sa vie privée en témoigne. Bon, c'est vrai, c'est moyennement intéressant de mêler la science et la vie privée, mais c'est quand même, disons que la vie privée va avoir des incidences sur la vie matérielle de Marais et indirectement sur ses recherches. Alors, sans faire dans les grillards, il est le médecin de Madame Vibor, la femme du directeur du journal Le Globe à Paris. Et Madame Vibor est une neurasthénique permanente et son mari est soulagé de voir Marais, un ami, consacrer du temps et de l'affection à sa femme. Donc, c'est l'entente cordiale. Hein. À trois, tout va bien. Et les Vibor aident Marais à acquérir la Villa Maria dans le quartier du Posillipo à Naples. Il s'y plaît tellement dans cette villa qu'il va y passer à peu près 6 mois de l'année, laissant son laboratoire parisien aux soins de Georges Deménie, son assistant. Alors, ça ne va pas aller sans problème non plus. Mais disons qu'à Naples, il a l'esprit détendu, il va pouvoir se livrer entièrement à sa passion, à savoir la photo. Et les Vibor vont aider Marais à s'installer dans un hôtel particulier à Paris. Monsieur Vibor fermera les yeux quand en 1871, sa femme attend un enfant de Marais, Francesca, qui est sur la photo, née à Naples, et elle passera pour sa fille adoptive, parce que quand même, la société de l'époque, et Marais aura un fils de sa gouvernante. Voilà pour le personnage. Les deux hommes se rencontrent en 1881. Fin 1878, 3 ans auparavant, Marais prend connaissance dans la revue Nature des travaux de Muybridge à Palo Alto pour l'ex-gouverneur de Californie, Stanford. Il demande au directeur de la revue de le mettre en relation avec l'auteur, car, dit-il, mon enthousiasme déborde. Cette rencontre est l'aboutissement donc d'un contact épistolaire entre les deux hommes. Et ils finissent par se rencontrer à Paris et ils sympathisent. En septembre, Muybridge lui apporte un album comportant une sélection de ses photos, et cet album est à Beaune, toujours sur les étagères, sous film plastique. Alors j'ai eu la chance de pouvoir le photographier, le regarder. C'est vrai que ça fait une drôle d'impression quand même de voir les photos de Muybridge, enfin certaines photos de Muybridge, avec des annotations au dos, atelier avec ses appareils, etc. Et on a le tampon de copyright en quelque sorte, Muybridge, auteur et imprimeur à Londres, etc. Vous voyez. Chez Marais, Muybridge va projeter des séries de 24 photos de cheval, chien, cerf, oiseau, pris avec 24 appareils installés en batterie. On va y revenir. Et la rencontre des deux va déterminer Marais à intégrer la photographie à ses recherches. La photo, qui était très répandue dans la bourgeoisie à l'époque, en fait, est très très peu introduite dans le milieu scientifique. Donc là aussi, Marais va faire figure de novateur. Alors, cette fois-ci, on va rentrer un petit peu dans les détails techniques. On va regarder les installations réciproques. qui ont permis la fabrication des images que nous allons voir. Et je vous rappelle qu'avant 1871, la rapidité, la sensibilité des émulsions ne permettait pas la photo instantanée. C'était absolument impossible. Alors, commençons par Muybridge à Palo Alto. Alors, Palo Alto, c'est un endroit en Californie. Et en 1872, Stanford, ex-gouverneur de Californie, demande à Muybridge de travailler pour lui. Et avec une petite équipe de techniciens, Muybridge construit une installation qui va comporter, alors, une piste illuminée par de grands projecteurs pour réduire le temps d'exposition, une toile de fond. La toile de fond se trouve ici. C'est une toile qui a 10 mètres de long sur 2,50 mètres de haut. Elle est inclinée à 60 degrés en arrière pour éviter les reflets de lumière. Et puis, on a dans un petit bâtiment une batterie de 12, puis 24, puis 40 appareils photo, des chambres Scoville à objectif rapide anglais d'Allmeyer. Et leur disposition dans l'espace permet des prises de vue sous des angles variés. Alors voici le dispositif. Vous allez mieux comprendre parce que j'ai trouvé sur Internet, on trouve vraiment tout ce qu'on veut, c'est extraordinaire. Le musée de la photographie de Gérone en Espagne a fait réaliser un petit film en 3D qui nous explique très bien le dispositif. Si ça veut bien fonctionner. Média non disponible. Ah. Tiens. Bizarre. Alors attendez, peut-être que ça va fonctionner avec celui-ci. Ah. Bon. Tant pis, on va faire avec, ou sans. Donc en fait, le petit film avait le mérite de nous montrer le fonctionnement de ces appareils. Alors je vais remplacer, je vais vous donner les explications. Donc, une batterie de chambres disposées, alignées les unes à la suite des autres. Chacune est reliée par un fil où passe un courant électrique. Et quand le sujet se déplace dans l'espace, que ce soit un cavalier ou un homme à pied ou n'importe, il va, en passant, casser les fils et déclencher au fur et à mesure chaque chambre. Donc, vous allez avoir des prises de vue successives. En l'espace de quelques secondes, vous allez avoir toute une rafale d'images. Et c'est là l'intérêt du travail de Muybridge. Maintenant, allons voir ce qui se passe à Paris. Marais va pouvoir bénéficier d'une aide gouvernementale pour créer une station physiologique, c'est-à-dire toutes les recherches qui ont pour centre d'intérêt le corps humain. C'est à cette époque-là que la gymnastique se développe, et puis comme la gymnastique corporelle avec des exercices, etc., c'était quelque chose d'entièrement nouveau, il fallait bien faire des recherches sur le corps humain. Et donc, cette station va servir de centre de recherche. Au départ, c'est une commande du ministère de la Guerre qui va permettre à Marais d'ouvrir cette station. En effet, le ministre de l'époque voulait avoir des renseignements précis sur le fantassin, la marche du fantassin, les pieds du fantassin, ce que pouvait porter le fantassin, etc. Parce que, disait-il, c'était un argument décisif dans la stratégie militaire. Donc, il y avait des choses à explorer. Et la première commande a donc émané du ministère de la Guerre. Marais va embaucher un préparateur qui s'appelle Georges Demény, on en reparlera. Et ce préparateur, en fait, va l'assister pendant plusieurs dizaines d'années. Et bien souvent, c'est lui qui va gérer tout seul la station physiologique pour la bonne raison que, comme je vous l'ai dit, Marais filait à Naples. Avant qu'il dispose de cette station, Marais faisait ses expériences dans la rue, près du jardin du Luxembourg. Quand j'ai lu ça, ça fait rire. On l'imagine en redingote et autres, avec différents, je ne sais pas moi, volatiles et autres. Ça faisait vraiment un petit peu chercheur fou. Hein. Par contre, là, il va avoir une installation grandiose qui va... Alors, en 1881, le conseil municipal de Paris va lui voter une subvention et octroie l'usage de 3 500 m² près de la porte d'Auteuil, au fond des Princes. Alors, la station comprend une piste de 450 mètres de long, une piste ronde, avec des poteaux télégraphiques qui vont permettre la transmission de signaux électriques au passage des sujets. Il y a une voie ferrée. Je vais vous passer la maquette. Maquette qui est au musée de Beaune. Voilà, c'est la copie conforme, hein, en fait. On a la gravure de l'époque, donc la piste. Une petite voie ferrée. Au centre, une tour technique. Et puis, ici, le hangar qui va servir de fond pour les prises de vue. Le hangar de prise de vue, surmonté d'une tour de 12 mètres pour prendre verticalement des photographies. La voie ferrée permettait la circulation d'une chambre noire roulante, vous la voyez ici. Le hangar, en fait, il mesure 15 mètres de long sur 4 mètres de haut. Toute la partie qui fait face à l'extérieur est noire. Et puis, au sol, on a des repères gradués pour justement mesurer le déplacement dans l'espace. Parce que Marais était quelqu'un de très rigoureux, donc il lui fallait absolument non seulement la saisie du mouvement, mais la saisie du temps. En plus de ces bandes, il y avait un chronomètre qui faisait un tour par seconde. Donc à la prise de vue, ça lui permettait de tout caler et de savoir ce qui se passait exactement. Et puis en même temps, là, ce wagonnet, transformé en chambre noire, était un moyen de prendre des photos, un petit peu comme les travelling. Donc voilà. En fait, tout était inventé. Hein. À la différence de Muybridge, Marais va travailler avec un seul appareil. Muybridge, lui, c'est des batteries d'appareils. Hein. Donc, en fait, ça va être des successions d'instantanés dans le temps. Alors que Marais, lui, c'est très différent. Son appareil, le chronophotographe, va être en fait une caméra de cinéma. Par contre, c'est une caméra qui est difficile à transporter. Le disque ici fait 1 mètre de diamètre. Hein. Voilà, donc le programme de la station physiologique de Marais, ça a été dans les années 80, l'accueil de soldats, de cavaliers, d'officiers, dans le cadre des recherches sur la marche, les chaussures et les charges du fantassin, comme je viens de vous le dire. En 1893, Marais publie la synthèse de ses recherches, Le Mouvement, dont la seconde édition attendra 2002. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Vous voyez, il a fallu attendre plus de 100 ans pour avoir la deuxième édition de ce livre qui se lit alors comme un roman policier. Hein. Les programmes réciproques maintenant. Alors, les programmes de Muybridge et de Marais sont à la charnière entre la photo et le cinéma. Et les deux ont jeté les bases du cinéma, en fait. Hein. Les frères Lumière ont trouvé le petit truc technique qui manquait, mais sinon, tout était en place. Muybridge, avec ses batteries d'appareils, réalise des clichés séquentiels, on l'a vu, des juxtapositions d'instantanés. Le zoopraxiscope étant le premier projecteur de cinéma, on y reviendra, et Marais, lui, n'a qu'un seul appareil. Les deux correspondent, ouais, ils correspondent épistolairement, mais chacun travaille de son côté. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi les deux n'avaient pas mis en commun leurs travaux. Ben non, il n'y a pas eu de stratégie commune. La photographie à cette époque-là, donc avec ces deux chercheurs, n'est plus seulement le moyen de capter des objets inamovibles, mais de capter des instants discrets dans le temps. Discrets parce que jusqu'à présent, invisibles. Marais va mettre au point toute une série d'appareils de plus en plus performants, on va voir la progression, et la grande différence entre les deux hommes est bien la finalité de leur démarche. Alors on va regarder la démarche de chacun, et bon, bah, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Muybridge et la diversité de sa thématique. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la collaboration Muybridge et Stanford, l'ex-gouverneur de Californie, va durer 10 ans, de 1872 à 1882. Muybridge est un peu traité comme un prince, il est libre de tous ses mouvements, hein. La nature de ses travaux dépend que de lui. Les photographies, par contre, sont destinées à être publiées. Ça, Stanford y tient absolument. Il faut que tout ce qui a été photographié soit édité pour être porté à la connaissance du public. Et en 1882, paraît « Cheval en mouvement », un livre d'un auteur qui s'appelle Stillman, illustré de nombreuses photos de Muybridge. Mais dans le bouquin de Stillman, le nom de Muybridge n'est même pas cité. Alors ça va le fiche en pétard, il va intenter un procès à Stanford et ça va être la brouille définitive. En 1884-85, l'université de Philadelphie va financer un projet beaucoup plus ample portant sur l'étude du mouvement et Muybridge va réaliser 20 000 clichés sur plaque de verre au gélatino-bromure, là, ce fameux procédé qui permet la saisie presque l'instantané. Il va collaborer avec l'Académie des Beaux-Arts. Il y a le peintre Thomas Eakins qui y participe personnellement. Et certaines prises de vue sont réalisées au département vétérinaire et au jardin zoologique. Donc en fait, on a un album photo extrêmement varié avec la marche de l'éléphant. Toujours une lecture séquentielle. Donc, en fait, quand on voit les tableaux d'images de Muybridge, la lecture se fait de ce point-là vers la droite. Ensuite, on passe à la deuxième ligne, de la gauche vers la droite, etc. Et la plupart du temps, il y a un petit numéro qui est écrit sur chaque photographie pour le repérage. Et habituellement, Muybridge, en dehors de la batterie de photos d'appareils alignés, il y avait toujours un appareil sur le côté, l'alignement des châssis qu'on a vu, mais également aussi un appareil devant et derrière. Donc il y avait trois angles, on va les retrouver. En 1887, il y a publication donc, de tous ces clichés qu'il a pris avec l'aide de l'Université de Philadelphie, et c'est la publication de la locomotion humaine et animale. Trois énormes bouquins qui sont réédités régulièrement, c'est beaucoup dire, mais il y a eu des rééditions relativement récentes, et c'est une sélection parmi les 20 000 clichés de 781 planches. Ça représente quelque chose de très important puisque chaque planche comporte au minimum 12 à 24 photos et il y en a 95 consacrées au cheval, 124 aux animaux, oiseaux, etc., 562 à l'homme quand même, qui est le sujet principal, homme, femme, enfant, hein. Et en fait c'est tout un répertoire au départ destiné aux artistes, répertoire de gestes usuels. sportif, professionnel, domestique. Alors pourquoi en fait ce Muybridge et Stanford s'intéressent-ils au cheval ? Stanford, je vous l'avais dit, est très fortuné et il possède un haras, et pour mieux entraîner ses chevaux, il souhaite mieux comprendre la locomotion animale. Stanford a lu d'ailleurs le livre de Marais sur la locomotion animale, qui avait été traduite en 1874, et donc Stanford a fait appel au photographe le plus en vue de Californie. La compréhension des mouvements du cheval et de sa mécanique des mouvements posait des problèmes aux experts, malgré l'étude anatomique et l'élevage qui connurent de grands progrès au cours du XIXe siècle. Il faut dire que le cheval, pour nous, ça, c'est plus un passe-temps ou autre, mais à l'époque, c'était le moyen de locomotion, hein, donc c'était capital. Le problème le plus irritant était la question suivante. Y a-t-il un moment pendant la course du cheval où chacun des quatre sabots de l'animal ne touche le sol ? Parce que l'œil humain ne pouvait pas le percevoir tant la période était courte. Alors pendant longtemps, voilà, le cheval est photographié dans toutes les allures, sous toutes les coutures, et pendant longtemps, le cheval est représenté ventre à terre, lombon étendu. Or, les artistes soupçonnaient que cela ne correspondait pas à la réalité physique du cheval en mouvement. Et dans les années 78, Muybridge va démontrer que les quatre pattes sont en l'air pendant la phase de contraction et non d'extension. Là, c'est pour les spécialistes. Et de fait... Et ça, c'est quelque chose qui échappait à l'œil humain. Alors, comme nous l'avons dit, Muybridge ne se cantonne pas au monde animal. Il va réaliser de nombreuses séries sur l'être humain, hommes, femmes, enfants, et les sujets vont relever plus de la composition académique que de l'analyse du mouvement. En fait, c'est destiné, je vous l'ai dit, à des artistes, et le style est plutôt esthétique. Trois angles de vue, je vous ai dit. Alors, sur cette série, on a donc une vue latérale, vue de dos et vue trois quarts avant. Par contre, les sujets, ça n'a vraiment rien à voir avec l'esprit de Marais. On est très loin du compte. Ici, il va recruter des modèles féminins dans les maisons closes de San Francisco, ou alors ce sont des modèles professionnels, comme cette femme qui apparaît sur de très nombreuses planches. Il y a la mise en scène de gestes professionnels. Alors bon, j'ai pris un maçon au travail. Il y a plein de corps de métier qui sont photographiés. Alors donc, là, c'est vrai que ce sont des photographies à l'usage des dessinateurs et des artistes. Par contre, on a des scènes tout à fait inattendues, comme ce saut de mouton. Une femme assise qui se prélasse et qui fume une cigarette dans le plus simple appareil. Alors bon, il faut dire que l'érotisme, c'est un bon argument de vente, et les photos de Muybridge étaient protégées par le sigle université, donc les photos échappaient à la censure. Alors on voit vraiment des trucs assez ahurissants, là, c'est cette jeune femme qui part à la pêche, sans le moindre voile, la canne et le panier à la main. Alors ici, c'est Muybridge qui s'est portraituré, un pic à la main. On imagine Marais difficilement dans cette position. Alors il y a des mises en scène proches du roman photo, il y a des petites actions qui sont interprétées. Alors comme femme se mettant au lit, bon, ma foi, pourquoi pas. Un contorsionniste. Et puis, de la pédagogie, de la fessée. En 1890, paraît un livre sur Muybridge qui a pour titre « Muybridge, le magnifique voyeur ». L'auteur, Gilardi Ando, n'est pas très éloigné de l'impression que l'on ressent en compulsant ces milliers de photos où tout un monde dénudé ou voilé se livre à diverses activités. Nous voilà bien loin des préoccupations d'Étienne Jules Marais. Nous allons regarder un petit film qui a été réalisé il y a 2 ans par un Américain et qui se sert des photos de Muybridge et qui fait des animations. Voilà. Tout est fait à partir des photographies de Muybridge. Voilà. Donc c'est vrai, la première fois, c'est toujours saisissant de voir des photos fixes de Muybridge s'animer, mais bon, techniquement, maintenant, ça ne pose plus de problème. C'est des animations GIF, il suffit de rentrer les séries de photos, et puis ensuite, le logiciel se charge de créer l'illusion du mouvement. Donc, Muybridge, c'était bien joli de faire des photographies, mais... il fallait les montrer au public. Alors, il y avait les bouquins, mais également les conférences. Muybridge a fait des quantités de conférences aux États-Unis, en Europe, et pour donner un petit peu plus de sel à ces conférences, il y avait une projection d'images. Et pour ces projections, il avait donc mis au point un appareil, le zoopraxiscope. En fait, ce n'est pas lui qui l'avait inventé, mais il avait... assembler plusieurs éléments préexistants pour transformer un appareil en projecteur d'images animées. Et ce projecteur fonctionnait avec un disque en verre, sur lequel étaient peintes des formes copiées de ces photographies. Et à la rotation, la vitesse déformait les silhouettes. Donc il fallait trouver une compensation. Donc l'artiste qui copiait les silhouettes était obligé de les étirer de façon à ce que à la rotation de l'appareil, la déformation soit acceptable. Vous voyez, donc il y avait encore un autre travail d'interprétation. C'était finalement assez complexe, mais ça marchait. Voilà le disque en rotation, puis une animation d'une photographe, d'une série de bisons. Nous allons revenir à Marais cette fois-ci, et puis sa démarche scientifique. Alors en fait, Marais a été un expérimentateur et un mécanicien de génie, parce que pendant toute sa carrière scientifique, il a mis au point des dispositifs, des mécanismes, etc. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'était la recherche scientifique, l'aspect commercial, ça ne comptait absolument pas pour lui. Par contre, son préparateur, Georges Demény, était beaucoup plus terre-à-terre et il a cherché à commercialiser le chronophotographe de Marais. Ça a d'ailleurs été l'une des raisons de la brouille définitive entre les deux, parce que Marais, pour lui, c'était inconcevable d'utiliser son chronophotographe à d'autres usages que faire progresser la science. À l'étage au-dessus de ses pièces d'habitation, il y avait un atelier où étaient mis au point les différents appareillages. Et en 1894, le photographe Nadar, dans ses mémoires, parle justement de Marais, qu'il est allé voir. Il décrit le laboratoire de Marais qu'il avait vu 30 ans auparavant, en 1864. Alors, laboratoire, mais aussi ménagerie, cage, aquarium, batracien, pigeon, buse, les machines sont omniprésentes. Ce n'est que rouage, ressort, bobine, bielle, engrenage, toute grande ouverte, la boîte de Pandore. Et en 1874, ses travaux sur le vol des insectes lui valent le titre de président de la Société française de navigation aérienne. La mise au point, justement, du futur avion, c'était une préoccupation extrêmement importante à l'époque. Donc, vous voyez, il avait toutes les gloires. Marais, je vous l'ai dit, se rend compte que sa méthode graphique avec les graphiques sur papier enduit de noir de fumée avait ses limites. Donc en fait, c'est la photo qui va l'accaparer et il va mettre au point des appareils. Et parmi ces appareils, il y a le fusil photographique, 1882. Alors, ce fusil à l'allure d'un fusil, mais en fait, il est composé de différents éléments. L'objectif est dans le canon. Un mécanisme d'horlogerie est dans la culasse. Il y a une gâchette qui permet de mettre en mouvement deux disques fixés sur un axe central qui fait 12 tours à la seconde. Il y a un disque percé de fenêtre qui sert d'obturateur. Et puis derrière, il y a un deuxième disque qui lui comporte 12 fenêtres, hein, 12 tours, secondes, 12 fenêtres, et une plaque sensible sur laquelle les images vont se fixer. Pour recharger le fusil, alors vous voyez, c'est un mécanisme finalement très très complexe. Ça, c'est le mécanisme intérieur. Et puis, pour recharger le fusil photographique, il y avait, alors le voici, là je l'ai photographié au musée des Beaux-Arts de Beaune, on a donc le fusil et puis le chargeur qui s'appelait boîte à escamoter, et en fait, c'était une boîte de réserve en quelque sorte, où il y avait 25 plaques sensibles, qui, quand on avait fini d'en utiliser une autre, hop, on avait rentré une suivante, etc. Ça permettait une autonomie assez grande. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très au point. En avril 1882, Marais saisit le vol de la mouette en 12 figures, mais la mise au point est laborieuse, les images sont toutes petites, et l'espace et le temps ne sont pas précisés sur les prises de vue, donc ça ne lui convient pas. Puis 12 images par seconde, c'est pas assez, hein, il en faudrait, d'après ses calculs, 50 à 100 par seconde. Donc on est loin du compte, là aussi. Malgré tout, Marais va mitrailler par sa fenêtre tout ce qui bouge, hein, les passants, les oiseaux, etc. À Naples, il est même surnommé le fou du Posillipo. Alors ce fusil, c'est une prouesse technique, malgré ses défauts. Il y a un seul objectif, et qui permet donc l'unicité du point de vue, à la différence de Muybridge, toujours avec ses appareils juxtaposés. En 1887, Marais va faire réaliser par un sculpteur italien les maquettes représentant les différentes phases de la révolution de l'aile du goéland. Donc on a le vol du goéland, qui est décomposé, et les 10 statuettes en bronze sont fixées dans un zoétrope. Cet appareil va être mis en rotation, et si on regarde par l'une des petites fentes à l'extérieur, on va avoir l'illusion de voir ce goéland voler. Voilà la chronophotographie qui a permis la réalisation de ces maquettes d'oiseaux. Et puis, alors ici, on a donc le sculpteur qui a réalisé les étapes donc du vol. Cette fois-ci, on a 24 étapes. Voilà, j'ai photographié la sculpture au musée de Beaune. C'est assez extraordinaire. Et pour l'époque, c'était absolument révolutionnaire. Donc on a 24 phases du vol avec les différents emplacements des ailes. C'est une sculpture qui fait à peu près une soixantaine de centimètres de long, à peu près. Voilà, donc je vous l'avais montré tout à l'heure, ce chronophotographe à plaque fixe. Les photos n'étaient pas très très grandes, 13 sur 18, malgré l'ampleur du disque. Alors avec ce chronophotographe, les photos se superposent. Donc il va falloir aménager d'une façon particulière les prises de vue. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait un hangar avec un fond noir, donc pour que les sujets se voient bien, ils vont avoir une combinaison blanche. Hein, comme ça, on a le contraste maximum. Oui, il y a des problèmes de lecture, surtout pour le cheval. Les formes se superposent et la lisibilité n'est quand même pas extraordinaire. Même chose pour le pas de gymnastique, il y a des parties des jambes qui se superposent, c'est pas quand même techniquement, il reste un petit peu sur sa fin, Marais. Malgré tout, ces recherches sur le cheval vont pousser certains peintres à corriger des toiles qu'ils avaient peintes avant. Quand ils sont allés chez Marais, ils se sont rendus compte des erreurs qu'ils avaient introduites dans leur tableau, donc eux ont compris tout de suite. Hein. Et on a Meissonnier qui va justement reprendre des toiles déjà peintes. Alors 1814, l'équilibre du cheval suivant Napoléon, j'ai pas fait d'agrandissement parce que la qualité n'était pas terrible, mais bon, paraît-il que ce cheval posait problème. La tête doit s'incliner à droite et non à gauche pour décharger l'antérieur gauche qui est au soutien. Alors ça, c'est des affaires de technicien. Dans la toile du bas, le cheval au premier plan est à l'allure du saut, non du galop. Alors après des repentirs, Meissonnier, le maniaque du détail, a encore droit à des critiques, parce que rien n'est parfait. Marais, je vous l'ai dit, il n'arrête pas de chercher, d'inventer, de mettre au point des appareils de plus en plus perfectionnés. Alors cette fois-ci, il va abandonner le chronophotographe à plaque fixe pour le chronophotographe à film. On est tout proche du cinéma, hein, vraiment tout proche. 1888, hein, je vous rappelle, 1895, les Frères Lumière, première projection à Paris. Donc on est vraiment tout proche. Hein. Pour éviter la superposition des figures, comme on vient de le voir, la surface sensible devient mobile. Et c'est bien la première caméra de cinéma à 20 images secondes. Hein, on est vraiment tout proche des lumières. Hein. Et la bande fait 80 cm de long et permet de prendre 30 images de 5 cm sur 9. Ça donne à peu près une idée. Et en 1890, la pellicule celluloïde Kodak est disponible. Première pellicule celluloïde. Donc, ça va être une révolution là aussi. Bon, je vous l'avais dit, hein, le commanditaire de Marais, c'est le ministère de la guerre. Donc, il n'y a pas de fantaisie. Hein, les femmes nues, etc., introuvables dans ses travaux. Hein, c'est plutôt le fantassin, le cavalier, l'uniforme qui sont les thèmes de ses photographies. En 1880, ah ben oui d'accord, je suis un petit peu en retard, voilà le mécanisme qu'il a mis au point pour faire défiler la pellicule dans le boîtier technique. Alors en 1890, pour développer sa chronophotographie géométrique, c'est le nom qu'il avait donné à cette recherche, Marais utilise un sujet en collant noir avec des bandes blanches collées sur les bras et les jambes. Le fond étant noir, le sujet disparaît et on n'obtient que le rythme de ces bandes blanches. D'ailleurs, pour numériser les attitudes, c'est exactement ce système qui est encore utilisé. Donc, vous voyez, Marais, il avait quand même une longueur d'avance. Et entre 1888 et 1895, Marais et son préparateur Demény vont réaliser des centaines de films et la station est à la pointe mondiale dans la production de films. On l'a bien oublié, tout ça. Alors tout est bon, hein, il va photographier tout ce qui lui tombe sous la main, y compris les animaux marins, ce qui ne va pas sans problème, parce qu'il fallait qu'il soit dans des aquariums, hein, donc un dispositif de photographie, il fallait des éclairages adéquats, vraiment très 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 complexe. Alors, j'ai pas réussi à trouver son premier film qui s'appelle La main. C'est une main qui est mise en mouvement et filmée. Là, par contre, le deuxième, La vague, qui a été réalisé à Naples. Oh, pardon. J'espère que ça ne va pas se bloquer. Évidemment, c'est très rudimentaire, mais le mouvement est là. Voilà, donc, deuxième film de l'histoire du cinéma. Et la même année, en 1890, donc 5 ans avant les Frères Lumière, Marais va réaliser des films sur les poissons, les insectes, la nage de la méduse, les raies, hippocampes, à 10 images par seconde. En 1890, en octobre, Marais dépose un brevet, le brevet du chronophotographe, avec arrêt de la pellicule pendant l'obturation. Et c'est ça qui est l'élément déterminant. L'appareil n'est pas tout à fait encore au point, mais Marais est conscient d'être très très proche du but. Et il a le pressentiment que sa caméra de film pourrait être commercialisée. Il manque un élément mécanique, hein, et c'est les frères Lumière qui vont le trouver. Parce que Marais ne propose que des images saccadées, et le filet, etc., ben, ça restait encore à mettre au point. Georges de Ménil, le préparateur de Marais, lui aussi travaillait beaucoup et avait mis au point, à partir en copiant les brevets de son patron, il avait mis au point un appareil appelé phonoscope à disque. Et lui, il est pratiquement arrivé à réaliser le projecteur de cinéma. Le problème, c'est que c'était toujours sur disque. Alors, en 1893, Marais publie Le Mouvement, synthèse de toutes ses recherches, et il a 62 ans. C'est un livre très illustré, et la seconde illusion, réédition attendra 2002, à laquelle a contribué Madame Marion Lebas, qui est la conservatrice du Musée des Beaux-Arts. Et elle m'a autorisé à photographier donc les pièces que vous avez vues. Alors, on a vu la station physiologique où les photos étaient prises. En 1903, hein, début du XXe siècle, cette fois-ci, Marais va pousser encore plus loin ses recherches pour rendre visible l'invisible. Donc, je vous ai mis deux photos juxtaposées. 1914, les débuts donc, de l'Institut Marais, et 1975, avant la démolition par les bulldozers de ce centre de recherche. Donc, en fait, c'est le président de la République qui va reconnaître d'utilité publique cet institut Marais. Au rez-de-chaussée, il y a un musée rétrospectif de la photographie et à l'étage, le musée Marais ou musée du cinéma. Et à l'époque de cet institut, Marais va toujours pousser ses recherches dans différentes directions. Il est toujours novateur, et puis il y avait une de ses préoccupations très anciennes, il voulait étudier le mouvement de l'air. Et en fait, ce sont les premières recherches d'aérodynamique. Donc vous voyez, là encore, Marais, c'est un précurseur total. Alors il va mettre au point des machines à fumée, qui aujourd'hui ont disparu, et qui créent des courants de fumée aspiré par un ventilateur. Alors, en haut à gauche, on a un meuble avec une vitrine et à côté, un poêle avec un tuyau qui communique avec le meuble et on a des filets de fumée qui sont dispersés par un ventilateur et les filets de fumée, quand aucun objet n'est dans la boîte, sont tous parallèles. Quand on introduit un objet, les filets vont se déformer et créer donc des volutes, etc. Il va prendre des dizaines de négatifs en observant le phénomène. Et en fait, on va trouver là aussi les problèmes récurrents à l'aviation débutante. Et en fait, tous les tests de résistance à l'air, eh bien, c'est Marais qui a mis au point cela. Alors, j'ai trouvé sur Internet un petit film où... Département d'ingénierie de Cambridge, où ça va démarrer, oui, il est de cette année ou de l'année dernière, où il y a justement la mise en évidence de l'aérodynamisme d'une aile dans un tunnel avec des filets de fumée. Et on se rend compte que le dispositif de Marais, ben là aussi, hein, il avait plus de 100 ans d'avance. C'est là qu'on prend conscience de la modernité du personnage. Alors, on va terminer avec les élèves de Marais. Mais Marais est décédé en 1904. Il y a tout d'abord Georges de Mesny, son préparateur. Il a toujours été jugé l'homme maudit par les amis de Marais. Et ce n'est qu'en 1995 qu'il sera révélé, parce qu'en fait, c'était quelqu'un de très très minutieux, très bon dessinateur, et puis il avait un esprit de chercheur lui aussi. Par contre, ce qui l'intéressait, c'était surtout le côté éducation physique, etc. Et c'est lui qui a jeté les bases de tous les exercices de gymnastique, qui à l'époque, c'était vraiment les débuts balbutiants. Hein. Et l'école de Joinville lui doit beaucoup à de Mesny. Alors les amis de Marais l'ont déjugé parce qu'ils n'ont vu en lui qu'un copieur et puis un piqueur d'idées, quoi, en quelque sorte. Alors c'est vrai que ses préoccupations n'étaient pas tout à fait les mêmes. Là, quand il photographie des danseuses de French Cancan, quand Marais voyait ça, il était fou. Alors, on va peut-être écourter un petit peu, mais j'ai fait une sélection de petits films qui ont été pris, vous voyez, 1891, donc 4 ans avant les Frères Lumière. Et on va voir Georges de Mesny prononçant « La photographie est une merveilleuse invention ». Il n'y a pas de son, hein, c'est vraiment pour... Alors, il y a plusieurs prises de vue, mais on arrive à lire sur les lèvres. Autoportrait de de Mesny, employé de la station prononçant le nom de Marais. C'est très basique, hein, mais bon, c'est vraiment les tout débuts du cinéma. Hein. Lucien Bulle, un autre élève de Marais, lui, il a travaillé toujours avec des plaques de verre. C'est le spécialiste de la chronophotographie et il va mettre au point un intervalomètre, c'est-à-dire un appareil qui va prendre à espace régulier dans le temps des vues. Et lui, c'est le spécialiste de la course à la vitesse. En 1905, il arrive à capter 2000 images à la seconde. En 1910, 5000. En 1919, 10 000, 1922, 22 000, 1941, 200 000 images secondes, en 1952, 1 million d'images à la seconde. Pour donner une petite échelle, à la fin du XXe siècle, le CEA atteint des dizaines de millions d'images à la seconde. La limite n'est pas loin, et à force de vouloir voir l'invisible, on finit par ne plus rien voir du tout. Alors, Bulle a photographié, par exemple, la trajectoire d'une balle à travers une bulle de savon. Vous voyez, il fallait quand même... Hein, la trajectoire de la balle, c'est 15 000 images secondes. L'onde de choc, il a pu photographier l'onde de choc à 200 000 images secondes. Et les plus belles photos ont été réalisées avec un appareil assez extraordinaire. Une chambre photographique qui n'a pas un objectif, mais 50 petits objectifs, micro-objectifs, vous voyez. Et ça permet d'obtenir des photos absolument extraordinaires, comme cette photo de chute d'une sphère dans l'eau. Pierre Noguès, alors là c'est le fidèle d'entre les fidèles, il sauvera avec Bull une partie des trésors entreposés à l'Institut. Lui, il travaille sur film. Il ne dépassera pas les 380 images par seconde. C'est une misère. Et en 1000. Alors, en 1932, il met au point une caméra Anime, l'abréviation d'appareil Appareil Noguès Institut Marais, qui prend 300 images à la seconde. C'est une caméra extraordinaire au point de vue technique et tout, mais faute de structure commerciale, elle restera très peu vendue. Voilà, en guise d'épilogue, l'Institut Marais sera rattaché au CNRS en 1956. En 1964, la bibliothèque de Marais est vendue par le Collège de France à un libraire, donc dispersion de la librairie. En 1972, la concession du terrain n'est pas reconduite et le stade Roland-Garros lorgne dessus. En 1977, une pétition circule pour sauver l'Institut. En 1978, l'Institut et la station sont entièrement vidés puis démolis au bulldozer. Comble d'ironie, en 1980, l'urne de Marais transite dans les archives du Collège de France. Et terminons avec l'épitaphe inscrite sur le monument de Marais. Ingénieur de la vie, infatigable explorateur, Marais nous a transmis des mondes et des formes que personne n'avait vus avant lui. Il fait le lien avec le savoir-voir de la Renaissance et l'art moderne du XXe siècle. C'est ce que nous exposerons donc dans la troisième conférence. Donc, la patrie reconnaissante, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les pièces de la collection de Marais, le fusil photographique, le chronophotographe, etc., tout ça végète sur des étagères dans la réserve du musée des Beaux-Arts de Beaune en attendant une hypothétique ouverture de musée. Est-ce qu'on a quelques minutes encore ou c'est juste? Oui. Voyons, je vais faire. On va jeter un petit coup d'œil pour terminer sur une note optimiste. Voyons, il y a l'embarras du choix. Alors, tenez, Libellule en vol. Alors, Marais avait mis au point encore un nouvel appareil qui permettait de photographier des tailles d'insectes petites. Il avait greffé une sorte de microscope sur son appareil, son chronophotographe. La photographie d'insectes, même actuellement, c'est quand même pas si facile que ça. Il y a des problèmes de lumière. Donc, il les avait en partie résolus, en concentrant une source lumineuse sur la zone photographiée. Voilà, c'est tout à fait étonnant. Voilà, on va peut-être terminer avec ce personnage en course. Alors évidemment, d'ici à capter l'intérêt d'un public, il manquait encore un petit quelque chose. Parce que la brièveté des successions d'images n'autorisait pas la réalisation même de très très courts métrages. Voilà, on va peut-être.
Bien, merci beaucoup. Si vous avez des questions à poser, et donc les gens à fournir la présentation qui va créer le nouveau musée à Beaune prochaine.
Merci pour la précision. Je connaissais l'existence de la propriété, mais je ne savais pas justement. Merci.